Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4, comme tous les mercredis de 18h à 19h. Je suis Juliette, animatrice de la campagne BDS France et du comité local BDS Provence. BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Nous avons remarqué, bien sûr, en cette période particulièrement dramatique pour le peuple palestinien, le nombre grandissant de vos messages sur nos réseaux. Vous nous demandez ce que vous pouvez faire pour soutenir la cause palestinienne. Alors, vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez faire des dons en argent. Nous ne prenons pas les dons en matériel, hein, uniquement les dons en argent, mais vous pouvez aussi vous investir dans nos associations en adhérant, en participant à nos actions. Alors, à Aix-Marseille, nous avons le groupe local de la FPS, c'est Palestine 13, qui a un site sur lequel vous trouvez de nombreuses informations. Le site, c'est Palestine 13. Nous avons aussi le comité local de la campagne BDS France, qui s'appelle donc BDS Provence. Nous avons un collectif qui s'intitule Marseille, Gaza, Palestine. Ces trois groupes ont chacun une page Facebook, Palestine 13, BDS Provence, Collectif Marseille, Gaza, Palestine. Sur ces pages Facebook, vous pouvez nous laisser vos coordonnées dans des messages privés afin que nous vous contactions pour que vous puissiez participer à nos actions. Cependant, il faut bien constater que ce qui suscite le plus d'intérêt en ce moment, et notamment chez les jeunes gens, c'est la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Nous avons beaucoup de demandes de renseignements, beaucoup de demandes de formation pour comprendre comment fonctionne cette campagne. Alors nous organisons des sessions de formation sur 2h, 2h30 à Marseille, à Aix. Nous avons rencontré comme cela plus d'une centaine de personnes qui ont suivi nos formations. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Alors ce soir, pour répondre un peu à vos demandes d'informations, pour ceux qui ne peuvent pas suivre systématiquement ou facilement les formations, j'ai décidé de prendre un temps d'explication sur cette campagne qui suscite tellement d'intérêt, pour mettre en évidence les points les plus importants. Cela ne dispense pas de faire une session de formation plus approfondie, hein, je précise. Mais déjà, ça vous donne une idée du fonctionnement de cette campagne. Alors, les origines de cette campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Cette campagne a été lancée par la société civile palestinienne en 2005, à la suite de plusieurs dizaines d'années de lutte contre Israël et contre sa politique d'apartheid. Ce sont 172 organisations de la société civile palestinienne qui se sont regroupées sous le sigle BNC, qui veut dire Boycott National Committee, c'est le comité national palestinien du BDS. Alors, pour quelles raisons les Palestiniens ont décidé de créer cette campagne? Eh bien, parce que depuis 1948, des centaines de résolutions de l'ONU qui condamnaient l'illégalité des politiques coloniales et discriminatoires d'Israël, ces résolutions n'ont eu aucun impact, aucun effet. Toutes les formes d'intervention internationale et de processus de paix, tout ce qui a été signé, tout ça, ça a échoué et ça n'a pas pu mettre fin ni à l'occupation ni à l'oppression du peuple palestinien. Et enfin, la résistance armée ne marche pas. Alors, les représentants de la société civile palestinienne, inspirés par la lutte des Sud-Africains contre l'apartheid, ont invité les organisations des sociétés civiles internationales et tous les gens de conscience du monde entier à imposer de larges boycotts et en mettre en application des initiatives de retrait d'investissement en Israël semblables à ceux qui étaient appliqués à l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Cet appel de la société civile palestinienne restera en vigueur jusqu'à ce qu'Israël applique le droit international et les principes universels des droits humains. Les trois objectifs précis à atteindre, ce sont La fin de l'occupation et de la colonisation de toutes les terres arabes et démantèlement du mur, la reconnaissance des droits fondamentaux des citoyens palestiniens d'Israël à une complète égalité, et enfin l'application de la résolution 194 de l'ONU sur les droits des réfugiés palestiniens à recouvrer leurs maisons et leurs biens ou à compensation. Alors en France, la campagne s'est organisée de cette façon-là. En fait, en juin 2019, c'est une centaine d'associations et d'organisations françaises qui ont décidé de répondre à cet appel des Palestiniens. Je vous cite quelques-unes des associations ou des organisations qui participent, qui ont signé cet appel. Il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit, une centaine. Donc, je vous en cite quelques-unes. C'est l'ORDIP, qui est une association d'universitaires pour l'application du droit international. Il y a ATTAC, il y a l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, le syndicat solidaire, ANC, c'est l'Association nationale des communistes, il y a le mouvement Ensemble, le parti de gauche, le NPA, le MAN, et bien sûr, beaucoup d'autres encore que je ne peux pas citer, et des comités locaux qui se sont créés. Toutes ces organisations ont considéré que la communauté internationale ne jouait pas son jeu, ne jouait pas son rôle, je veux dire, et l'Union européenne et le gouvernement français, les premiers, ne prenaient aucune sanction contre le gouvernement israélien pour toutes les violations du droit international et des droits humains. Donc, ces organisations qui se sont regroupées ont édicté une charte. C'est une charte de principes qui guide nos actions pour le BDS. Dans la charte, on peut noter que le boycott représente une prise de position politique, que cette campagne de boycott de l'État d'Israël n'est pas une fin en soi. Elle ne vise qu'à l'application du droit international et le respect des droits des Palestiniens. Et enfin, que notre action est éthique, citoyenne, non-violente, anticoloniale et antiraciste. Alors la campagne BDS France fonctionne de manière souple, hein. Des réunions de coordination nationale ont lieu une fois par trimestre, à Paris en général, hein, pour des raisons pratiques de transport. Les représentants des différents membres de la campagne y discutent de l'état de la campagne, des objectifs, ils fixent des priorités, ils choisissent éventuellement des dates d'action nationale. Des groupes de travail sont constitués par des militants dans différentes organisations sur la base du volontariat, bien évidemment, hein, pour coordonner telle action ou telle campagne, travailler sur un sujet en particulier. Les décisions se prennent au sein de la coordination nationale, au consensus, dans un esprit unitaire. Et les organisations membres de la campagne paient chaque année une cotisation, mais qui est vraiment minime. Alors pour les aspects techniques et par souci d'efficacité et de réactivité, une équipe d'animation est en place avec une dizaine de personnes, entre 10 et 12 personnes, qui organisent donc la vie pratique de la campagne, qui vérifie que les décisions prises en réunion de coordination sont bien appliquées, qui fait le lien avec les groupes locaux, qui propose des outils, des actions, qui propose des publications, qui peut écrire des communiqués, des articles, etc. Les membres de cette équipe d'animation sont amenés à tourner régulièrement, mais dans un souci de continuité, hein, d'efficacité. En général, les membres restent quand même plusieurs années dans l'équipe d'animation. Voilà, donc là, globalement, je vous ai présenté ce qu'est la campagne BDS du point de vue des Palestiniens et comment elle est organisée en France, comment nous répondons à l'appel des Palestiniens. Donc, nous allons faire une petite pause, enfin une pause musicale, pas si petite que ça, dans laquelle on va écouter une chanson que nous chante HK. Et en fait, HK a mis en musique le dernier poème de Refaat Al-Arer, ce poète palestinien de Gaza qui, le 1er novembre 2023, sachant que sa vie et celle de ses proches étaient en grand danger, ce poète, qui était également professeur de littérature à Gaza, publie sur les réseaux sociaux ce qui sera malheureusement son dernier poème, commençant par « If I must die, you must live to tell my story ». Ça veut dire si je dois mourir, vous devez vivre pour raconter mon histoire. Et en effet, le 6 décembre 2023, il est tué chez lui par un bombardement de l'armée israélienne avec son frère, sa sœur et leurs enfants. Alors, HK a mis en musique une traduction française de ce poème pour lui rendre hommage et, comme il le demandait, pour raconter son histoire, leur histoire. Voilà, donc nous allons écouter cette musique de HK et nous nous retrouvons tout de suite après.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza,
que ton nom soit interdit. Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza,
qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza,
de tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza,
à ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza,
de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza,
de ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd. Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza,
et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza,
enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza,
qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza,
qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza,
a perdu son humanité,
Gaza, Gaza,
son honneur et sa dignité. Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort devienne une histoire.
Que ma mort devienne une histoire.
Voilà, quelle magnifique musique, magnifique poème. Alors maintenant, nous allons parler des trois points de BDS. Donc B, boycott, D, désinvestissement, S, sanctions. Et j'aime bien commencer par les sanctions parce que l'idée, c'est que si les sanctions étaient appliquées, eh bien le B et le D seraient totalement inutiles, bien évidemment. Alors, comment faire appliquer des sanctions ? Pour nous, il s'agit de faire pression sur nos politiques, sur nos gouvernements, pour que ceux-ci imposent des sanctions à Israël. Nous pouvons, par exemple, envoyer des courriers à nos députés, leur demander de poser des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Nous pouvons également prendre des contacts avec nos députés européens pour leur demander, dans le Parlement européen, de dénoncer les accords bilatéraux avec Israël, parce qu'il y a beaucoup d'accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël. Nous pouvons également, plus localement, dans nos municipalités, demander à notre conseil municipal et à nos élus municipaux de faire voter des résolutions ou faire voter des vœux pour que la municipalité s'engage à ne pas établir d'accords de partenariat, toutes sortes d'accords où fasse des investissements en Israël ou achète du matériel venant d'Israël, etc. Bon, voilà, demander, ça s'est fait, des municipalités, de grandes municipalités l'ont fait, pas en France malheureusement, en Belgique, à Liège et à Verviers, mais également la municipalité de Barcelone qui avait émis une résolution comme quoi elle rompait tous ses partenariats avec Israël, Dublin également, Oslo, donc ça se fait, c'est à nous à entrer en contact avec nos élus municipaux pour leur demander de faire voter des résolutions par le conseil municipal. Il y a également, on peut également créer ce qu'on appelle des espaces sans apartheid, c'est-à-dire que ça consiste en demander par exemple à un commerce ou un local de signer une charte qui existe, hein, comme quoi ce commerce ou ce local s'engage à ne pas avoir de lien avec l'apartheid israélien, c'est-à-dire vendre des produits qui viennent d'Israël ou recevoir des institutions israéliennes ou faire des échanges. Bon, on crée un espace sans apartheid. C'est une campagne qui existe en Europe, assez développée, en Italie et en Espagne. Il y a énormément d'espaces sans apartheid en Italie, en Espagne. En France, malheureusement, il y en a peu, mais on va développer cette campagne. Il y en a trois, en fait, en France, d'espaces sans apartheid, pour tout vous dire. Il y en a un à Paris, c'est la librairie La Brèche, qui est la librairie du NPA. Et puis, on en a deux à Marseille, donc c'est quand même plutôt bien. On a la librairie Transit, qui s'est déclarée espace sans apartheid, la librairie Transit qui est sur le boulevard de la Libération. Et puis, on a également le local de l'ANC, l'Association nationale des communistes. Ce local s'est déclaré également espace sans apartheid. Voilà, donc si on peut continuer à faire ça, demander à des commerces, des petits commerces de quartier ou des locaux d'associations, voilà, de se déclarer espace sans apartheid, et petit à petit on peut grignoter, et si on arrive à grignoter plusieurs espaces et que ça devient une rue sans apartheid, voilà, ça serait très bien. Donc ça, c'est un moyen d'influencer, on va dire, nos gouvernants, nos politiques, pour qu'ils appliquent ensuite des sanctions, enfin en tout cas qu'ils demandent à ce que des sanctions soient appliquées. Voilà, ça c'était la partie sanction. Alors on passe à la partie boycott, qui est plus facile à comprendre. Ça dépend de quel boycott on parle, hein. Alors déjà, il faut savoir que les cibles des boycotts sont décidées par le BNC, le Boycott National Committee. Ce sont les Palestiniens qui choisissent les cibles, et ils ont des critères pour choisir les cibles. Ça n'est pas au hasard en disant « ah ben tiens, on va boycotter ça » ou « on va boycotter ça ». Non, en fait, ils choisissent des entreprises ou des organisations qui sont de façon très évidente complices de l'apartheid et de l'oppression. Ça, c'est un des critères de choix. Un deuxième critère, c'est que la campagne qu'on va mettre en place contre cette entreprise ou cette organisation ou ce produit, etc., cette campagne doit dénoncer facilement cette complicité, qu'elle doit être évidente qu'on puisse la dénoncer. En général aussi, la cible est choisie en fonction du fait que sur certaines entreprises ou certains produits, on peut rejoindre d'autres groupes militants qui appellent également au boycott de cette entreprise ou de cette organisation ou de ce produit pour d'autres raisons que nous, mais malgré tout, on peut travailler ensemble, c'est-à-dire par exemple les banques. Hein, les banques, on sait qu'attaquent, mènent de grandes campagnes contre les banques. Ben, nous aussi, les banques font partie des cibles. Hein. Il y a d'autres groupes qu'on peut rejoindre, par exemple des groupes qui travaillent sur l'environnement, Ça aussi, on peut les rejoindre. Et un autre critère de choix des cibles de la part des Palestiniens, c'est la possibilité de succès. Voilà, c'est-à-dire qu'ils étudient de façon très attentive, ils documentent énormément pour se rendre compte, voir si les chances de succès sont élevées ou pas. Alors, en fait, au niveau du boycott, il y a deux sortes de campagnes. Il y a des campagnes qui sont seulement des campagnes de boycott. C'est-à-dire, ça, c'est pour les produits israéliens et les entreprises israéliennes. Par exemple, au niveau des produits, on appelle à boycotter tous les fruits, les légumes, les agrumes qui viennent notamment de la vallée du Jourdain, qui est donc une vallée occupée. Hein. On appelle au boycott de SodaStream, vous savez, ces machines qui gazéifient l'eau, et tous les produits qui découlent de SodaStream, des dattes, toutes les dattes qui sont étiquetées Israël, bien sûr on appelle au boycott parce qu'elles sont cultivées dans la vallée du Jourdain qui est une vallée occupée. Toutes les lingettes, vous savez les lingettes dans les grandes surfaces, les lingettes, que ce soit les lingettes Carrefour, les lingettes Géant Casino, les lingettes Intermarché, etc. En général, toutes ces lingettes sont fabriquées en Israël. Donc on appelle au boycott de ces lingettes-là. Tous les produits, tous les cosmétiques de la marque Ahava et de la marque Moroccan Oil qui viennent, ce sont des cosmétiques qui sont fabriqués près de la Mer Morte, dans une zone occupée également. Tous les articles ménagers de la marque Keter, c'est une entreprise israélienne, et les médicaments du laboratoire Teva. Donc voilà, ça ce sont des campagnes de boycott, on appelle au boycott, voilà, de ces produits-là, pas plus que ça, enfin pas plus, ce qui est déjà extrêmement important. Voilà, je redis, les fruits et légumes, les agrumes, tout ça, patates douces, etc. SodaStream, les dattes, les lingettes, la marque Ahava, la marque Moroccan Oil, Teva et Keter. Après, il y a des campagnes qui sont aussi des campagnes de désinvestissement. Ça, c'est plutôt pour les entreprises. C'est-à-dire que beaucoup de campagnes sont en même temps des campagnes de demande de désinvestissement et de boycott. Ce sont des grandes campagnes internationales. On va en parler un peu plus tard. On va les détailler, mais là, on va rester sur ce qui est boycott pour l'instant. Alors après, il existe aussi le boycott culturel. C'est-à-dire qu'on précise bien qu'on ne boycotte ni les personnes, ni les œuvres, ni les artistes, ni les individus, ni les œuvres, ni leur contenu, mais on appelle au boycott des institutions culturelles israéliennes. Et en général, tous les spectacles qui nous viennent d'Israël sur le plan culturel, aussi bien les chorégraphies, voilà les spectacles de danse, les films, les spectacles autres encore, de musique, etc. En général, ils sont soutenus par les institutions culturelles israéliennes et donc ces institutions, elles sont complices du système d'oppression. Donc, on appelle au boycott toutes ces institutions culturelles. On appelle au boycott, à travers ça, on appelle au boycott l'État israélien, qui est représenté par ces institutions. De notre côté, pour nous en France, nos artistes, tous nos artistes, quels qu'ils soient, on leur demande de ne pas aller se produire en Israël. Pour une raison ou pour une autre, ne pas aller se produire en Israël. Ah, ensuite, il existe le boycott sportif, c'est-à-dire que on demande à nos sportifs de ne pas aller faire de compétition en Israël, et si des équipes sportives viennent en France participer à des compétitions, on appelle au boycott de ces compétitions, où on manifeste devant les stades, alors c'est l'exemple du Tour de France par exemple, vous savez qu'au Tour de France depuis plusieurs années, il existe une équipe israélienne qui participe au Tour de France. Donc, on a dans un premier temps écrit au directeur du Tour de France, au staff du Tour de France pour demander de ne pas faire participer cette équipe. Bon, ça a été lettre morte, on va dire. Donc, du coup, eh bien, pendant les étapes du Tour de France, on se tient au bord de la route et on informe les spectateurs au bord de la route du fait qu'il y a une équipe israélienne qui participe et ce que fait le gouvernement israélien aux Palestiniens, etc. C'est une occasion d'informer et c'est également une occasion de siffler très fort et de manifester lors du passage de l'équipe israélienne et des voitures qui suivent l'équipe israélienne, les voitures marquées Israël. Donc toutes sortes de boycotts sportifs, hein, aussi bien des matchs de foot où il y a une équipe israélienne qui vient jouer, on manifeste dans le stade ou en dehors du stade, etc. Bon, voilà. Le boycott syndical, on demande à nos syndicats de rejoindre la campagne BDS. Alors, il y a des syndicats hein, dans la campagne BDS, notamment Solidaires, mais il y a aussi des unions départementales de la CGT. Et il s'agit donc pour ces syndicats de travailler en lien avec les syndicats palestiniens et également de faire pression dans leurs entreprises, s'il y a beaucoup de syndiqués qui travaillent dans une entreprise, de faire pression à la direction de leur entreprise pour que cette entreprise n'ait pas d'échanges commerciaux ou de liens avec des entreprises israéliennes. Voilà, ça c'était le boycott, hein, boycott culturel, boycott sportif, syndical. Il y a le boycott universitaire également, c'est-à-dire qu'on demande aux universités françaises de ne pas établir de collaboration et de partenariat avec les universités israéliennes. Pourquoi ? Parce que dans les universités israéliennes, il faut savoir que l'armée est très présente. Toute la recherche militaire se fait dans les universités israéliennes. Et l'armée est très très présente dans les universités. Et les enseignants palestiniens sont très mis de côté, très maltraités, de mauvaises conditions, etc. Et les universités palestiniennes en Israël, sur le territoire d'Israël, n'ont pas d'aide, autant d'aide que les universités israéliennes. Elles sont très discriminées. Donc, on appelle aussi au boycott universitaire. Alors, maintenant, on va parler du désinvestissement. Donc, il s'agit de faire pression sur les entreprises françaises ou européennes ou internationales pour qu'elles arrêtent leur collaboration avec Israël ou leur investissement avec Israël. Donc là, on a quelques victoires à notre actif et notamment, on va parler de la victoire Orange. Vous savez, la téléphonie Orange qui avait investi en Israël. Il y a eu une grande campagne qui s'est mise en place de demande de désinvestissement puis d'appel au boycott de Orange. Et finalement, Orange a totalement désinvesti d'Israël. Donc c'est une grande victoire qui date quand même d'un certain nombre d'années maintenant, mais c'est une victoire très intéressante. Voilà, alors on va refaire une pause. Alors là, ça ne va pas être une pause musicale, mais ça va être une pause au cours de laquelle on va écouter un entretien qui est très très intéressant, vous allez voir, qui dure une douzaine de minutes. C'est un entretien entre Bertrand Badi, qui est politiste, professeur émérite à Sciences Po. Cet entretien est mené par le journaliste Théophile Kouamouo, c'est sur la chaîne du Média. Et cet entretien concerne le coup d'éclat de l'Afrique du Sud qui est parvenu à contraindre Israël à un procès devant la Cour internationale de justice. Vous savez, ça s'est fait il y a 2 semaines à peine. Ce tribunal international qui est une instance officielle des Nations Unies. Donc cette procédure judiciaire, elle a été très scrutée partout dans le monde hein, parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives pour la Palestine. Donc est-ce que cette l'ouverture de cette procédure va créer un mouvement historique? C'est ce que nous allons voir dans l'avenir. Mais en tout cas, là, nous allons écouter cet entretien et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Salut Bertrand.
Bonjour Théophile.
Et bonne année. Et
bonne année, si on peut dire.
On commence par le conflit israélo-palestinien et l'initiative judiciaire de l'Afrique du Sud qui a traîné, pour ainsi dire, l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice en l'accusant de génocide. On commence par regarder un petit magnéto.
The violence and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. On 6 October 2023 and every day since October the 7th, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure, as well as over key government functions. No armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defense to breaches to the convention, whether as a matter of law or morality.
Bertrand, est-ce que l'ouverture de cette procédure devant la Cour internationale de justice est un moment historique? Quel jeu joue l'Afrique du Sud, membre historique des BRICS, donc acteur du Sud global, comme on sait?
Disons déjà que c'est un moment explicite, c'est-à-dire où on pose dans l'espace public mondial un problème qui est un problème de fond. Et en cela, c'est un événement extrêmement important. Symbolique tout d'abord, et je dirais peut-être hélas surtout symbolique. Symbolique parce que l'Afrique du Sud, ce n'est pas n'importe quel État au monde. C'est celui qui a porté le modèle d'apartheid. C'est celui qui est peut-être le plus intimement associé à la question des droits de l'homme dans la période post-1945. Donc c'est tout un symbole. C'est aussi, comme tu l'as dit, un acteur majeur de ce Sud global. C'est un pays d'influence. C'est un pays, je dirais aussi, d'affichage. Donc, effectivement, le symbole est extrêmement puissant. Et au-delà du symbole, il est très sain que l'espace public mondial débatte d'une question que l'on n'osait pas expliciter. Maintenant, il y a l'autre face de la chose. Il ne faut pas oublier que la CIJ est une institution internationale contraignante, c'est-à-dire dont les décisions sont des décisions qui s'imposent. Mais, et c'est toute l'ambiguïté du droit international, les décisions sont contraignantes, mais la Cour ne dispose d'aucun instrument de contrainte. Donc, combien de décisions de la Cour internationale de justice sont restées sans effet, comme par exemple la construction du mur? Le mur qui sépare la Cisjordanie, les territoires occupés d'Israël, a été présenté, défini comme illégal par la Cour internationale de justice. Il existe toujours, parce qu'il n'y a pas de moyen de rendre les décisions contraignantes. On connaît le tout petit canal qui rend contraignant ce genre d'arrêt. C'est le choix de la puissance américaine. Les États-Unis sont les seuls à pouvoir exercer ce pouvoir de contrainte que nul, ni les Nations Unies, ni n'importe quel autre État du monde, n'est capable d'exercer sur Israël. Il est très peu probable, et ce que l'on entend à Washington sur la Cour internationale de justice et sur cette plainte déposée par l'Afrique du Sud n'est pas très encourageant, parce que les États-Unis s'inscrivent en faux contre cette plainte, ce qui est une façon de nous prévenir que, de toute manière, si Israël ne respecte pas une éventuelle décision de la Cour internationale de justice, les États-Unis ne feraient pas opposition à une telle réticence. Donc, le symbole est fort. Le débat est important, le résultat, pour l'instant, paraît plus abstrait que concret.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, la construction d'une figure de l'État voyou qui, dans un contexte, effectivement, de puissance américaine, mais d'affaiblissement de la puissance américaine et de division des puissances européennes et de renforcement du Sud global autour de la Palestine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue sur un moyen ou un long terme, la construction, justement, d'un État indéfendable?
Je dirais oui, mais. Et le oui est heureusement plus important que le mais. Oui, bien sûr, parce que nous vivons dans une séquence historique qui s'est amorcée finalement avec le temps de la décolonisation, des guerres coloniales, qui est un temps de stigmatisation publique. C'est-à-dire, alors que l'opinion publique était loin des questions internationales, n'était pas appelée à s'en mêler ou ne s'y intéressait pas, il y a eu un mouvement de bascule quand même très important dans la chronique des relations internationales, la chronique multiséculaire des relations internationales, c'est que depuis aussi la révolution des communications et ces grands enjeux qui étaient la décolonisation, les guerres d'intervention, maintenant il y a une opinion publique, peut-être pas internationale, mais une opinion publique sur l'international, qui juge, qui stigmatise. Il ne faut pas oublier que la plus grande manifestation de tous les temps, c'est celle qui a eu lieu le 15 février 2003, lorsque il y a eu le débat au Conseil de sécurité sur l'éventualité d'une intervention américaine en Irak. C'est dire qu'il y a maintenant un grand juge de la politique internationale qui est l'opinion publique mondiale, qui compte. Et effectivement, cette stigmatisation fait que de plus en plus, l'État est décidé voyou, non pas par le haut. Il ne faut pas oublier que État voyou, c'est un concept qui a été inventé par la politique étrangère américaine pour stigmatiser les gouvernements qui ne lui plaisaient pas. Mais maintenant, et de plus en plus, la stigmatisation, elle vient du bas. Il y a un jugement social sur les faits internationaux. Et effectivement, ce jugement social ne conduit pas les États dénoncés à changer. On l'a bien vu, Bush est quand même intervenu en Irak. Mais aujourd'hui, et ça c'est une petite lueur d'espoir, aujourd'hui, cette stigmatisation publique des politiques étrangères ou des États qui manquent aux obligations de l'humanité, elle entrave sérieusement l'action de tels États. Donc ça devient un paramètre très important. Regarde à quelle vitesse l'opinion publique mondiale change d'avis sur la question israélo-palestinienne. C'est un autre signe. Mais il y avait un mais. Le mais, c'est que, encore une fois, nous vivons dans deux mondes en même temps. Ce monde réel, qui porte ses jugements, ses lectures, et puis le monde des princes qui appartient encore aux images du 19e et du 20e siècle, qui ne croit qu'au rapport de force et qui ne se laisse intimider que par le jeu de puissance. Alors, effectivement, le passage de la condamnation à la mise en place de sanctions, ça, c'est le problème. Les sociétés peuvent juger, elles ne peuvent pas beaucoup sanctionner.
Est-ce qu'on n'est pas là face à une tentative de reconstruire du multilatéralisme via l'arme du droit international, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies, verrouillé par les membres permanents comme les États-Unis, la Russie, la Chine, mais également la France et le Royaume-Uni, est objectivement en état de mort clinique?
Oui, mais c'est un petit peu le cercle vicieux et le serpent qui se mord la queue. Parce que le droit international, il existe, mais s'il n'a pas d'instrument d'exécution, il ne dit que de belles paroles. Et le Conseil de sécurité, il faut quand même en dire un mot. Il y a eu, face à ce conflit, qui est un conflit effrayant, à Gaza aujourd'hui, il y a officiellement 23 500 morts. Mais si on compte ceux qui, hélas, sont encore aujourd'hui sous les décombres, on doit être à 30 35 000. C'est-à-dire 1,5% de la population gazaoui. C'est-à-dire, si c'était en France, proportion gardée, ça ferait comme équivalent 1 million de Français qui seraient morts sous les bombes. C'est quand même quelque chose d'inouï. C'est quelque chose d'inouï. Le Conseil de sécurité, le 22 décembre, a dit... Bon, continuez si vous voulez, mais ne faites pas trop de bruit et surtout ne vous faites pas trop mal. C'était un blanc-seing qui était donné à ceux qui étaient les fauteurs de la guerre à Gaza pour continuer. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on a vu avant-hier ? Avant-hier, nous avons vu le Conseil de sécurité exiger des outils qui mettent fin à leur attaque sur les bateaux qui croisent en mer Rouge. Ça veut dire que le Conseil de sécurité condamne de façon contraignante l'action contre des navires, mais ne condamne pas des actions qui ont conduit à quelque 30 000 morts à Gaza. On voit bien qu'on est ainsi hors de la réalité, mais on voit aussi et surtout que derrière ce refus de la réalité... Eh bien, il y a ce droit laissé aux gouvernants d'Israël de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi Netanyahou se gênerait à partir du moment où le Conseil de sécurité ne lui dit pas d'arrêter ? Donc, c'est trop facile de dire...
Bref, on ne peut pas contourner le Conseil de sécurité. On est obligé de constater...
Mais oui, parce que c'est trop facile de dire « Oh, le Conseil de sécurité, ça marche pas, c'est fini, c'est la mort cérébrale et tout ce que tu veux ». Mais le fait qu'il ne marche pas est un encouragement à la guerre. Ce n'est pas seulement un non-acte, c'est un acte qui va dans le sens d'un encouragement à renforcer cette guerre. Et c'est ça qui m'effraie dans le cas de Gaza, comme m'effraie le fait qu'on ne parle pratiquement plus des bombardements quotidiens sur Gaza. Quand je regarde le JT de 20 heures, c'est rare qu'on nous en parle. C'est quand même quelque chose d'effrayant. L'indifférence devient une stature de la vieille géopolitique. Et cette indifférence, elle est terriblement mortifère.
Alors, Bertrand, lors de notre dernier entretien, nous avions évoqué la question des accrochages en mer Rouge, notamment avec la milice yéménite Houthi, d'obédience chiite, qui attaque des navires, entre autres la frégate française Provence. Et voilà que le feuilleton se poursuit avec l'Iran qui a détourné ou s'est saisi d'un pétrolier américain, litige privé ou future crise internationale. On regarde un petit magnéto.
Au lendemain d'une résolution de l'ONU condamnant les tensions en mer Rouge, l'Iran détourne un pétrolier dans le golfe d'Oman. Le tanker venait du port irakien de Bassora avec du pétrole dans ses cales. Selon la télévision iranienne, le navire était au cœur d'une affaire de saisie de brut iranien qui avait terminé entre les mains d'une société américaine. L'équipage du Saint-Nicolas est composé de 11 Philippins et d'un ressortissant grec. Le pétrolier navigue sous pavillon des îles Marshall et son armateur est basé à Athènes. L'incident risque d'envenimer les tensions en mer Rouge de l'autre côté de la péninsule arabique. Dans cette région, les rebelles yéménites, alliés de l'Iran, multiplient les attaques et perturbent le trafic maritime commercial.
Là aussi, Bertrand, le problème a un aspect judiciaire, car Téhéran se fonde sur une décision de justice interne à propos d'un navire manifestement accusé d'avoir confisqué, dans un premier temps, du brut iranien et de l'avoir remis aux États-Unis, dans un contexte, il faut dire, de sanctions et d'extraterritorialité du droit américain. D'un point de vue juridique, il y a quelque chose qui se joue également. Quelle législation interne peut s'imposer ?
En fait, on touche là à un point extrêmement sensible du droit international qui fait en même temps sa force et sa faiblesse.
Voilà, donc maintenant, on comprend quand même mieux ce qui s'est passé au niveau de la Cour internationale de justice. C'était vraiment très intéressant. Alors, maintenant, nous allons parler des grandes campagnes internationales qui sont en cours, qui sont en même temps des campagnes de demande de désinvestissement et des campagnes d'appel au boycott. Alors, AXA, on va commencer par la campagne contre AXA, les assurances AXA. AXA, c'est une compagnie qui avait de gros investissements dans la plus grande société israélienne d'armement qui s'appelle Elbit Systems et également de gros investissements dans 5 grandes banques israéliennes. On sait que ce sont les banques israéliennes, bien sûr, qui financent la construction des colonies. Mais sous la pression de la campagne, parce que c'est une campagne qui est en place depuis très longtemps, pratiquement 10 ans, je pense, AXA a commencé à vendre des actions qu'elle avait investies dans Elbit. Elle a commencé à le nombre d'actions qu'elle avait dans Elbit a fortement diminué. Il ne lui en reste maintenant plus que 10% de ce qu'elle avait au départ. Cependant, elle garde encore des investissements dans les banques. Donc, la campagne se poursuit contre AXA. Alors, comment faire ? Donc, bien sûr que, en fait, on demande à AXA de désinvestir, mais pour faire pression, on demande aux gens qui ont des contrats dans les assurances AXA de résilier leurs contrats. Alors, comment faire ? Eh bien, il suffit d'écrire une lettre à AXA. Alors, on a établi une lettre type, un modèle qui est disponible sur le site de BDS France. Il suffit d'aller chercher dans l'onglet campagne avec AXA et on trouve des modèles de lettres type pour envoyer AXA pour dire voilà, je résilie mon contrat et voilà pourquoi, avec une lettre très argumentée. Après, il vous reste à trouver une autre compagnie d'assurance, bien évidemment. Donc ça, c'est la campagne AXA. Alors ensuite, j'aimerais vous parler de Puma, parce que Puma, c'est une campagne qui a fait quand même beaucoup de bruit récemment, en raison du fait que c'est une campagne qui a été gagnée, c'est une victoire. Alors, Puma, pourquoi Puma faisait l'objet d'une campagne ? Eh bien, parce que Puma était le sponsor depuis 2018 de l'Association israélienne de football, cette association qui inclut des clubs de football qui sont dans les colonies. Donc, Puma fournit des équipements, sportifs à l'association israélienne de football et par ricochet aux clubs qui sont dans les colonies. Donc, on a demandé à Puma de désinvestir, de rompre son contrat avec cette association israélienne de football. Puma n'a pas tenu compte de notre demande, donc on a appelé au boycott de Puma. Au cours de ces dernières années, beaucoup d'actions, beaucoup de demandes, beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux, boycott Puma, jusqu'à aller... En fait, l'entreprise est basée en Allemagne, en Bavière. Et c'était là qu'au mois de mai dernier s'est tenue l'association des actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires de Puma. Donc nous y sommes allés, un certain petit groupe de militants, et nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit lors de cette Assemblée générale des actionnaires. Et voilà, donc ça a fait partie des actions et de la pression qu'on a mis sur cette entreprise. Et dans le courant du mois de décembre, on a appris que Puma avait déclaré à la presse ouvertement donc qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec l'association israélienne de football. C'est un contrat qui se termine dans le courant de l'année 2024. Donc, nous arrêtons cette campagne, nous sommes vigilants, nous surveillons, pour être sûr que Puma réellement va arrêter son contrat, mais c'est sûr et certain, mais bon, on surveille quand même. Et voilà, c'est une très très belle victoire et c'est une campagne qui a vraiment très très bien marché. Alors ensuite, une autre campagne internationale qu'on suit également, c'est la campagne contre HP, Hewlett-Packard. C'est le matériel électronique de surveillance, tout ce qui est informatique, électronique. HP fournit tout ce matériel aux prisons en Israël et ainsi qu'aux checkpoints en Cisjordanie occupée. Donc là aussi, il y a eu une campagne qui est en place depuis des années, et avec un appel au désinvestissement et un appel au boycott. Et il y a une victoire partielle, c'est-à-dire que HP a arrêté de fournir le matériel de surveillance des prisons. Il fournit toujours le matériel de surveillance des checkpoints, mais c'est déjà une victoire partielle. Ensuite, on va parler d'une grande campagne actuelle qui fait beaucoup de bruit actuellement, c'est la campagne contre Carrefour. Donc les magasins Carrefour, c'est un groupe français. Et dans le courant de l'année 2022, on a appris que Carrefour avait signé des accords de franchise avec deux sociétés israéliennes de grande distribution. Et ces accords de franchise permettent à Carrefour de vendre des produits de la marque Carrefour dans des magasins de ces sociétés israéliennes, des magasins qui sont installés dans les colonies. Donc, on a demandé à Carrefour de rompre ces accords de franchise. Carrefour ne le fait pas. Donc, on appelle au boycott des magasins Carrefour. Et de plus, on a appris dans le courant du mois de décembre que Carrefour avait la filiale israélienne de Carrefour avait offert des colis alimentaires aux soldats de l'armée israélienne. C'est quand même assez choquant. Et donc ça a vraiment donné beaucoup d'impulsion à cette campagne Carrefour. Beaucoup de gens se sont investis dans cette campagne et beaucoup de gens sont en train de déserter les magasins Carrefour ici en France et notamment à Marseille. On a appris également que Carrefour était sur le point d'ouvrir un magasin Carrefour, pas simplement de vendre ses produits dans des magasins, mais d'ouvrir un magasin Carrefour dans une grande colonie qui s'appelle Maal Adumim, une grande colonie, une des plus anciennes et des plus grandes en Israël, en Palestine occupée. Donc, on fait des actions, on appelle au boycott de Carrefour, on fait des actions devant les magasins Carrefour en expliquant aux gens pourquoi il ne faut plus aller à Carrefour, pourquoi Carrefour est complice de la colonisation et maintenant complice du génocide, quelque part, par le fait d'offrir des colis alimentaires aux soldats. Bon. Donc les gens sont très motivés, en fait, et il y a tellement d'intérêt sur cette campagne que même les médias s'y sont intéressés, puisqu'on a eu droit à des interviews dans la Provence, on a eu droit à des interviews sur des radios, sur Sud Radio, sur Europe 1, où il y a eu des petits reportages dans lesquels on a été interviewés. Donc c'est une campagne qui marche bien actuellement et on espère un jour une victoire. Une autre campagne qui est un peu en parallèle de la campagne Carrefour, c'est une campagne contre McDonald's, la restauration, les fast-food McDonald's. En fait, les restaurants McDonald's sont, il y a des restaurants McDonald's en Israël, donc mais uniquement en Israël, pas dans les colonies. Donc en fait, on n'appelait pas spécialement au boycott de McDonald's, sauf que depuis le mois de décembre également, McDonald's a fait la même chose que Carrefour. Il a offert des repas aux soldats israéliens. Donc du coup, une campagne qui était un peu spontanée en fait. Les gens se disaient, moi je ne vais plus aller à McDonald's. Ben là, ils ont trouvé vraiment la motivation et la raison. Et du coup, les Palestiniens nous ont demandé d'en faire aussi une campagne. Ils ont mis en place une campagne contre McDonald's. Une autre campagne qui va démarrer, alors très très prochainement, qui commence à se mettre en place à l'appel de 300 clubs sportifs palestiniens et des associations et des organisations de la société civile palestinienne. Tous ces gens-là se mobilisent pour demander l'exclusion des sportifs israéliens aux prochains Jeux olympiques qui, comme chacun sait, vont se tenir à Paris en juillet-août 2024. Nous sommes directement concernés puisque c'est à Paris. Donc une campagne est en train de se mettre en place, dans un premier temps en demandant l'exclusion d'Israël de ces Jeux olympiques. Et puis, si on n'obtient pas cette exclusion des équipes israéliennes, eh bien, il y aura une campagne de boycott qui se mettra en place pour ne pas assister et ne pas regarder les compétitions. Donc ça, c'est une campagne qui est tout à fait très, très, très récente, hein, qui a démarré, on va dire, la semaine dernière, à peu près. Voilà. Autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'il est en train de... au mois de mars... chaque année, au sein d'une coordination européenne, il y a un événement qui s'appelle IAW, c'est Israeli Apartheid Week. C'est une semaine contre l'apartheid israélien. C'est un événement coordonné avec des conférences qui sont organisées un peu partout en Europe et en France. La campagne BDS France participe à cette semaine contre l'apartheid israélien. Il s'agit d'organiser une tournée de conférences, d'événements culturels pour informer sur l'apartheid israélien. Donc c'est au mois de mars, donc bien sûr que nous allons y participer. Voilà, donc ça ce sont essentiellement les grandes campagnes. Alors pour terminer, il nous reste un petit moment. Pour terminer, je veux juste vous citer quelques points forts de l'impact de BDS en 2023. Il y a quand même eu des faits marquants qui représentent des victoires et qui sont vraiment importants pour la lutte des droits des Palestiniens. Donc, je vous en cite quelques-uns. Le BNC en a fait une liste de 18 faits marquants en 2023. Mais 18 parce que la campagne BDS existe depuis 18 ans. Voilà. Alors, un des faits marquants, c'est qu'il y a eu une victoire massive sur une grande société qui fait également du matériel de sécurité, de télésurveillance, une grande entreprise qui est au Royaume-Uni, qui s'appelle G4S. Et cette entreprise a décidé de désinvestir complètement d'Israël. Donc ça, c'est une grande victoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé, je pense, de la municipalité de Barcelone qui avait suspendu ses relations avec Israël. Le conseil municipal avait voté une résolution. Une autre capitale en Norvège, la capitale Oslo, en Norvège, qui avait annoncé aussi qu'elle exclurait de ses marchés public les entreprises qui contribuent directement ou indirectement à l'implantation illégale des colonies. Une autre ville au Brésil, c'est la ville de Belém, qui s'est déclarée, toute une ville, espace sans apartheid, dont on a parlé tout à l'heure. Un syndicat canadien de la fonction publique qui représente 37 000 travailleurs, donc c'est quand même un syndicat important, a annoncé son soutien au mouvement BDS. Et enfin, pour terminer, je vais vous citer l'artiste Sam Smith, qui est récompensé par un Grammy et par un Brit, qui a annulé sa prestation en Israël sous la pression de ses fans et de tous les défenseurs des droits des Palestiniens. Voilà, ça c'est, et bien sûr, alors la campagne Puma, la victoire de la campagne Puma, Puma qui ne renouvellera pas son contrat, qui met fin à son contrat avec l'association israélienne de football, qui est la dernière, le plus beau fait marquant de l'année 2023, à la fin de l'année 2023. Voilà, eh bien, cette émission se termine. Merci à Sidi pour la technique. Merci à vous pour votre écoute attentive. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Et je vous dis à mercredi prochain pour Une heure en Palestine. Bintishalabi.